Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 6. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 6. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où ces événements se produiront. Car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les hommes diront « Tout est en paix et en sécurité », c'est alors que tout à coup, la destruction s'abattra sur eux. Ils n'y échapperont pas. Ce sera comme les douleurs de l'accouchement qui saisissent une femme enceinte. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité. Et ce jour ne doit pas vous surprendre comme un voleur. Car tous, en effet, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour, et nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Ainsi, nous ne devons pas dormir comme les autres, mais nous devons rester éveillés et sobres. Amen. Discerner les signes du temps. Savez-vous pourquoi le film d'Al Gore, le film documentaire qui s'intitule « Une vérité qui dérange » a connu du succès? Vous connaissez ce film? Un film documentaire sur le climat. Ce film s'est basé sur des analyses concrètes, des calculs, des données que nous avons aujourd'hui dans le monde. Et à partir de là, il a mis des scénarios, des situations un peu catastrophiques, il faut le dire, mais proportionnelles à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et cela rejoint ce que Jésus avait dit dans l'évangile de Luc. Jésus disait aussi à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. » Et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, dit le Seigneur. Vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel. Alors pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Voilà ce que Jésus avait dit. Et vous savez, les gens savent très bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ce monde. Mais ils adoptent la politique d'autruche. Vous voyez l'autruche qui essaie de se cacher avec sa petite tête, mais on le voit. C'est ça l'homme aujourd'hui. Il essaie de fuir ce jour, mais il sait en lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La réalité du temps présent, je dis bien du temps présent, on ne va pas fantasmer sur ce qui va se passer demain. La réalité du présent nous rattrape, qu'on le veuille ou non. Et Paul incite les Thessaloniciens à bien comprendre ce qui se passe autour d'eux. Regardez ce qui se passe autour de vous. Les chrétiens doivent avoir les pieds sur terre afin de faire face à ce qui va arriver dans l'avenir. Il n'appelle pas les Thessaloniciens à sombrer dans le rêve, dans les fantasmes, mais de vivre pleinement leur vie tout en ouvrant bien leur regard, leur réflexion à ce qui se passe autour d'eux. D'ailleurs, à un certain moment, les Thessaloniciens, quand ils ont entendu le message de Paul que Christ va revenir, ils ne voulaient plus travailler parce qu'ils avaient compris que le Seigneur va revenir bientôt et sans travailler, ils attendaient. Mais ils n'ont rien compris. Comme Luther avait dit, si le Christ viendra demain, je vais planter un pommier aujourd'hui. Le fait que le Christ va revenir ne signifie pas que nous allons rien faire. Au contraire, c'est là qu'il faut redoubler d'efforts, parce qu'il va revenir. Paul ne les a pas invités à se projeter dans le futur, à rêver du futur. Mais au contraire, il invite ses frères et sœurs à ouvrir leurs yeux sur ce qui se passe aujourd'hui, dans la société, dans le monde. Et c'est cela être prophète, chers frères et sœurs en Christ. Un prophète, ce n'est pas un diseur de bonne aventure, ni faire des annonces pour le futur. Les prophètes dans l'Ancien Testament qui ont été appelés par le Seigneur ne sont pas des personnes qui tombent de nulle part. Dieu fait lever un homme, une femme, au milieu de son peuple qui vit les mêmes problèmes qu'eux. Regardez Moïse, au milieu de son peuple, dans l'esclavage, Dieu l'a choisi. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est quelqu'un qui vit avec son frère. Regardez aussi Daniel et ses trois frères, Sadrach, Messach et Abednego. Ils étaient en exil avec leurs frères. Et de là, le Seigneur les a fait lever pour justement interpréter les signes du temps. Même chose pour les juges après l'époque de Josué parmi les opprimés des Philistins. Et à chaque fois, l'Éternel envoie un prophète pour Israël, un prophète qui souffre avec le peuple. Et les raisons qu'il donne sont des choses bien précises, du vécu. Si vous lisez les livres prophétiques, il n'y a rien de chose extraordinaire. Le prophète ne fait que dénoncer les injustices sociales, ce qui se passe dans la société. L'Église doit se lever aussi pour proclamer cela. Et c'est là le problème aujourd'hui. L'Église a démissionné de sa mission. L'Église est prophète parce qu'il doit proclamer, il doit crier sur le toit ce qui ne fonctionne pas dans la société. C'était le rôle du prophète. Cela n'a rien à voir avec la soif de spiritualité d'aujourd'hui. Quand on parle, il y a un prophète quelque part dans un tel quartier, il reçoit des messages de Dieu. Ce n'est pas ça. Où les gens cherchent des sensations mystiques, des sensations extraterrestres. Faites attention. Il y a ceux qui font tout pour faire des voyages astrales, côtoyer le monde des esprits. Ce n'est pas ça, être prophète. Pour nous, c'est tout à fait le contraire. L'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux. Nous ne sommes pas des aveugles. Nous ne sommes pas les fous de Dieu. Nous sommes des humains qui ont des yeux pour regarder, pour voir ce qui se passe. Nous avons les pieds sur terre, tout en étant déjà à la droite du Père. C'est ça, l'Église. Mais face à cela, il nous invite à discerner les signes du temps. C'est un peu comme la météo que nous voyons à la télé, en se basant des données météorologiques. Le présentateur nous dit, demain, portez un pull parce qu'il va faire froid. Des prévisions dans notre façon de s'habiller. L'endroit où nous pouvons aller ou pas, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Selon ce qui se passe aujourd'hui, j'adapte ce que je vais faire demain. Et je prends cette illustration météorologique pour nous faire comprendre que dans le christianisme, il n'y a pas de code d'éthique préétabli ou de code d'éthique prédéfini. Voilà ce que tu dois faire parce que tu es chrétien. Ça n'existe pas. Comme chez les légalistes pharisiens qui ont mis en place des petites lois, 613 lois, des petites lois pour expliquer les 10 commandements. Non, le Christ ne nous met pas dans une boîte. Il nous donne une liberté. Ce n'est pas une sorte de décret d'application. Nous sommes dans la phase d'attente du retour du Seigneur. Et donc le chrétien, lui, il est appelé à lire le temps ou l'époque où il vit. On vit en 2017. L'Église n'est pas l'Église au Moyen-Âge. On est ici à Namur en 2017. Si Dieu nous a placés dans cette époque, c'est parce qu'il a un message à nous transmettre. Où est-ce qu'il est, l'Église? Dans quel endroit il vit? Mais il doit aussi se poser une question fondamentale en tant que protestant maintenant. Que dit la Bible en fonction de ce que je vis aujourd'hui? Et c'est là qu'on voit que la Bible n'est pas démodée. Au contraire, il est toujours d'actualité. Alors c'est à lui, c'est à moi, c'est à toi et non à l'Église, grand E, l'Église, l'institution, de dicter ce que tu dois faire ou pas. Si vous allez me poser la question, que dois-je faire, pasteur, face à cette... Je ne vous donnerai jamais des indications, parce que l'Église ne doit pas dicter ce qu'il doit faire. Et c'est ce qui fait la spécificité de l'éthique chrétienne par rapport aux autres religions. Il n'existe pas de normes préétablies ou un truc standard comme dans un manuel de procédure à suivre à la lettre. L'éthique chrétienne n'est pas un code de loi, n'est pas un code de sainteté à suivre. L'éthique chrétienne est le fruit d'une expérience entre le vécu de la personne et sa relation avec son Dieu. Et de là, il sort son éthique. C'est en fonction de ta vie, de ton expérience, de ta relation avec Dieu que tu sauras ce que tu dois faire. Et là, vous allez comprendre, c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose d'écrasant que je ne peux pas faire ça parce que je suis chrétien. Non, puisque je connais mon Dieu et je sais ce que je dois faire. Donc si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, c'est que tu as un problème de relation avec ton Dieu. C'est là le problème. Mais si tu as une relation profonde avec ton Dieu, tu sauras tout seul. Tu seras tout seul qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Et dans les évangiles, Jésus agissait différemment à chaque individu. Vous voyez, c'est ça qui est riche. Ce que Jésus avait fait avec un individu, il ne l'a pas fait avec l'autre. Il n'y a pas de copie-coller en Christ. Tout est original. Nous vivons en communauté, bien sûr, mais notre relation avec Dieu doit être personnelle. Par conséquent, moi, je ne peux pas, moi en tant que pasteur, je ne peux pas imposer à une personne lambda une façon de vivre que moi j'ai adoptée. Et c'est ça ce qui se passe dans les sectes. Le pasteur a dit que tu dois faire ça parce que lui, il le fait. Non, ça c'est ma façon de vivre avec le Christ parce que moi j'ai une relation avec lui que je ne partage pas avec toi peut-être. Mais c'est ma façon de vivre avec lui. Mais toi aussi tu auras ta façon de vivre avec le Christ. Et c'est ça qui fait le goût du christianisme. Une fois, Pierre avait posé une question à Jésus sur le type de relation qu'il entretenait avec Jean. Il était jaloux. Ils sont toujours ensemble, les deux là, hein? Et Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui s'était penché souvent vers Jésus pendant le repas et lui avait demandé, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? En regardant Jean, il espérait que c'est lui le traître. Et Pierre le vit donc et dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Il était curieux sur la vie de Jean. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Et la nouvelle se répandit alors parmi les croyants que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'a rien dit de cela. Il ne mourra pas, disent certaines, mais il avait dit, si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? En d'autres mots, cela ne te regarde pas, Pierre. C'est ma relation avec Jean. C'est personnel. Incroyable, non, comme réponse? Ce qui te reste à faire, Pierre, c'est tout simplement de me suivre et de ne pas regarder à gauche et à droite, ni de se préoccuper de la vie des autres. Toi, suis-moi, point bas. Si les chrétiens font ça, il n'y aura pas de persécution entre frères et sœurs en Christ. Parfois, on est préoccupé. Ah, mais comment ça se fait que lui, il fait ça? Ce n'est pas ton problème. Toi, suis-moi, dit le Seigneur. Et même les propos de Jésus ont été détournés de leurs propos, de leur sens. Et un bruit qui commençait à circuler. Même au sein des apôtres, il y avait des intox. Des bruits qui circulaient. Jean ne va pas mourir. Ce qu'il faut tout de même mettre en valeur, en exergue, c'est que nous appartenons à la lumière. Et donc à nous de nous comporter comme étant des enfants de la lumière. Et en parlant ainsi, cela nous renvoie à la parabole des 10 vierges. Est-ce que vous vous rappelez de cette parabole? Les 10, elles avaient tous un point commun, les 10 vierges. Elles dormaient toutes, puisque l'attente était assez longue. C'est normal, non? En tant qu'être humain, on peut s'endormir parfois. Mais la grosse différence entre les 10, c'est qu'il y avait un groupe de 5 qui étaient imprévoyantes parce qu'elles n'avaient pas de réserve d'huile pour leur lampe. C'était tout simplement ça. Et je trouve que cette histoire des 10 vierges reflète bien notre vie ici-bas, dans l'attente du retour de Jésus. Nous sommes tous vulnérables à partir du pape, du pasteur, des évêques, quels que soient les titres qu'on a dans l'Église. Nous sommes tous vulnérables comme monsieur et madame tout le monde, même si nous sommes des enfants de Dieu. Mais la seule chose qui devrait nous différencier du monde, c'est cette lucidité qu'il y a quelque chose après. Ça, c'est notre différence. Et nous ne sommes pas emprisonnés par ce qui se passe aujourd'hui, puisque nous avons une espérance pour demain. Regardez vos voisins, vos amis, dans la famille. Les gens sont emprisonnés par le présent. Qu'est-ce qu'ils souffrent du présent ? Nous entendons toujours parler de vivre le jour. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. On peut le comprendre comme ceci. Il n'y a rien demain et donc je vis à fond ma vie, n'est-ce pas les gens ? Je vis à fond ma vie, il n'y a rien demain, donc je dois profiter car demain c'est le néant, demain c'est le vide. Ça, ce sont les gens qui sont emprisonnés par le présent. Et cette personne, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Et donc il doit tout faire aujourd'hui. Et quand on n'a pas d'espérance, alors nous nous contentons de ce qui peut se passer aujourd'hui. Mais le moment instantané devient oppressant. Pourquoi le stress ? Parce que c'est l'instantané qui nous guide. C'est l'instantané qui devient le mot majeur qui nous guide dans la vie. Parce que si on rate quelque chose aujourd'hui, ici et maintenant, alors demain, il n'y aura plus rien. Mais l'espérance chrétienne montre bien que la vie ne se résume pas à ce qui se passe qu'aujourd'hui. Voilà ce que Jésus a dit dans Matthieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se soucierait de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Amen.